5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bienvenue dans l'émission Orion, chemin de l'espace. C'est une première émission d'une longue série qui sera consacrée tout au long de l'année à l'aventure de la conquête spatiale. C'est un rendez-vous mensuel que le groupe Orion, l'association d'astronomie du volet, vous propose donc. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous avons voulu rendre hommage à Neil Armstrong et son premier pas sur la Lune, qui a été un événement dont les plus anciens se souviennent. Nous sommes avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Alors, nous allons évoquer avec vous, effectivement, Neil Armstrong. C'est un symbole qui est décédé il y a à peu près 2 ans.
Alors, Neil Armstrong est décédé le 25 août 2012.
Alors, nous rendrons également hommage à tous les autres premiers hommes de la Lune qui sont tous des précurseurs de l'aventure spatiale.
Oui, puisqu'il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune, donc des missions Apollo 11 à Apollo 17.
Alors, Jean-Michel, nous évoquerons tour à tour, effectivement, en quoi ce premier pas sur la Lune a été, à son époque, un défi pour l'humanité, une victoire technique, politique, un événement médiatique sans précédent, et aussi un choc culturel planétaire. Nous verrons aussi comment les scientifiques et les ingénieurs s'y sont pris pour réussir cet exploit. Et puis aussi, on évoquera quand même pourquoi, à quoi ça sert tout ça et pourquoi on a fait autant d'efforts. Donc voilà, sur le qu'est-ce qu'il faut savoir pour aller sur la Lune à cette époque-là, pourquoi cette aventure ?
Eh bien, il faut replacer un petit peu dans le contexte actuel. Nous sommes en période, donc dans les années 60, période de guerre froide. C'est la compétition spatiale entre l'URSS et les États-Unis à l'époque, hein. Voilà. Et donc, dans son discours de l'État de l'Union, le président Kennedy annonce qu'il enverra un homme sur la Lune avant la fin de la décennie.
Donc c'est la compétition Est-Ouest,
qui
voilà. A été un des moteurs. Mais bon, il y a un contexte quand même à l'époque qui veut quand même que il y a déjà eu Spoutnik, il y a déjà eu beaucoup d'aventures déjà.
Il y a eu Spoutnik, il y a eu Gagarine, les Américains aussi donc ont rejoint l'espace en envoyant des hommes qui tournent autour de la Terre aussi bien que l'Union soviétique. Et là donc la compétition, c'est la conquête de la Lune. Conquête de la Lune qui va se concrétiser donc au mois de juillet 1969.
Alors là, des moyens considérables sont dégagés, la machine américaine se met en route.
Alors la machine américaine se met en route, c'est vrai que ça a coûté très très cher aux contribuables, donc pour arriver à ce résultat, comme l'a dit Neil Armstrond, un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité.
Alors voilà, il y a de l'argent, il y a des missions innovantes, la recherche se met en route, il y a aussi beaucoup d'innovations techniques qui naissent à cette époque-là. Quoi. Entre le Spoutnik et la Lune, quel pas de géant y a-t-il ?
Alors d'abord, se mettre en orbite autour de la Terre, c'est une chose. Quitter l'orbite terrestre pour aller se mettre en orbite autour donc du satellite de la Terre, la Lune, c'est une autre paire de manches, on va dire. Hein. Voilà. Donc le voyage, eh ben il faut trois jours minimum pour aller autour de la Lune, et pour s'y poser, eh ben, c'est pas si facile que ça. Il a fallu, comme vous le dites, Gérard, de grands défis techniques. Donc, la science a progressé sur le plan technique, sur le plan informatique, enfin, on va dire, toutes les techniques qui se développent à cette époque-là vont beaucoup progresser.
Qu'est-ce que l'on peut souligner comme évolution technique majeure qui a rendu possible justement ce voyage déjà ?
Eh bien déjà, tourner autour de la Terre pendant quelques heures ou quelques jours et revenir se poser, c'était, on va dire, au début des années 60, quelque chose qui était un petit peu acquis. Ensuite, il fallait ce voyage qui allait durer, on va dire une bonne semaine, pour aller faire le tour de la Lune, s'y poser et revenir sain et sauf. Donc tout ça a été expérimenté d'abord en orbite terrestre. Et puis quand on a pensé que l'homme était capable d'aller autour de la Lune, on est allé d'abord faire un tour de la Lune, avant de s'y poser, revenir. Petit à petit, tout ça, c'est à petits pas, on va dire, pour finir par ce pas sur la Lune.
parlons un petit peu de la préparation de ce voyage, les hommes, comment préparer les hommes, comment préparer les machines.
Alors, préparer les hommes, bien sûr qu'ils se préparent au sol, il faut qu'ils soient en bonne santé, sur le plan technique, physique, il faut qu'ils soient opérationnels. Et donc, l'Amérique, à l'époque, va mettre le programme Mercury, donc d'abord avec deux hommes, le programme Gemini et le programme Apollo.
Qui sera celui qui nous emmènera vraiment sur...
Le programme Apollo, donc d'Apollo 11 à Apollo 17, donc c'est celui qui va nous mener sur la Lune. Il y a eu Apollo 9, Apollo 10, hein, bien sûr, avant. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, aller se mettre en orbite lunaire avant d'arriver à se poser sur la Lune.
Alors, sur la préparation des astronautes, vous avez la chance d'en rencontrer assez régulièrement. Hein. Ils insistent souvent sur la difficulté, finalement, de leur mission, c'est dans la préparation. Vous confirmez ça?
Oui, cette préparation est très très longue parce qu'ils ils ont beaucoup d'entraînement, l'entraînement à la survie, d'entraînement dans des conditions à la chaleur, au froid, à l'isolement, à être prêt à réagir, à tout imprévu. Et en ce sens, Neil Armstrong était déjà un homme bien préparé à cela. Je peux vous donner une petite anecdote. Lors de la guerre de Corée, donc il était pilote de chasse, avec son avion, il a heurté un câble aérien qui lui a coupé un petit peu l'aile de son avion. Donc, au lieu de revenir se poser sur le porte-avions, qui n'était pas possible, il a réussi à arriver sur une base américaine et à sauter en parachute. Neil Armstrong n'avait jamais sauté en parachute. C'était la première fois. Donc, mais il avait étudié un petit peu cette technique. Et grâce à toute cette préparation, on va dire, sans avoir effectué le saut, il a réussi à se poser sur la base américaine.
Alors, la sélection est terrible. Finalement, la qualité première d'un astronaute, c'est quoi? C'est de se débrouiller quoi qu'il arrive?
Se débrouiller quoi qu'il arrive, son sang-froid, son calme, ses capacités physiques, ses capacités techniques.
Alors, avant de parler d'Apollo 11, un mot quand même sur, précisément, Neil Armstrong. Qui est le premier quand même à se poser. Qu'est-ce que l'on peut dire de son enfance, de son histoire, de son parcours avant de descendre son échelle?
Neil Armstrong est né en 1930 et dès le début de son enfance, c'est un homme qui s'est toujours intéressé à l'aviation, à l'aéronautique. Donc il a été pilote, il a passé ses brevets, ensuite il a été pilote pendant la guerre de Corée, il a fait de nombreux essais dans différentes sociétés américaines avant d'être recruté par la NASA dans le corps des astronautes.
Alors quel homme était-il au point dans la vie courante avant, pendant, après, parce que c'est surtout après.
Ce que j'ai envie de vous dire, ce qu'on relate un petit peu dans les écrits et dans la connaissance qu'on peut avoir de cet homme, c'est un homme très calme, sérieux, on va dire, avec toutes les qualités physiques, humaines, le summum un petit peu des capacités humaines.
Donc c'est un homme normal qui a posé la première fois son pied sur la lune.
C'est un homme normal, mais on va dire un homme normal avec quand même des capacités extraordinaires.
Michel, parlons maintenant de la mission Apollo 11. On rentre dans l'histoire.
Alors, on rentre dans l'histoire. Donc, Apollo 11, c'est Armstrong, Aldrin et Collins. Il ne faut pas oublier l'équipage. Hein. Donc, Armstrong et Aldrin vont se poser sur notre satellite pendant que Michael Collins va continuer à tourner en orbite pendant que les hommes vont faire leur travail sur la Lune.
Frustration.
Certains, sa frustration qui reviendra à chaque équipage.
Alors, on peut décrire quand même cet alunissage.
Alors, cet alunissage, donc déjà il y avait eu des répétitions, puisque dans les précédentes missions, on s'était approché de la Lune et puis on avait vu qu'on pouvait poser ce qu'on appelle le LEM, le Lunar Module. Et donc Armstrong va descendre, poser le LEM sur la Lune. Et donc, il avait très très peu de carburant. Et Armstrong, qui était quand même un homme, comme on l'a dit, avec toutes les qualités, va réussir à éviter un cratère et à poser son LEM d'une façon manuelle.
Donc, non prévu, manœuvre non prévue,
Prévu, non prévu, parce qu'ils sont prêts à toute éventualité. Voilà. Donc, il va poser donc son LEM sur la Lune. Ils vont répéter toutes les procédures parce que les procédures sont longues, répétitives, voilà. Et lorsque donc il va enfiler son scaphandre pour descendre sur notre satellite, et il va poser son pied avec cette célèbre phrase que nous avons tous entendue. Voilà.
Est-ce que l'on se pose sur la Lune comme on se pose sur la Terre ?
Non, parce que la gravité n'est pas la même.
Alors, quelles conséquences pratiques ? On
va dire qu'on pèse 6 fois moins sur la Lune. Lorsqu'on saute, on aura tendance à sauter beaucoup plus haut sur la Lune. Hein. Et là, on va découvrir sur la Lune quelque chose que les Américains n'avaient pas prévu. Hein. C'est ce qu'on appelle le régolithe ou la régolithe, puisqu'on le prononce de deux façons, hein, masculin et féminin. C'est cette poussière lunaire. Cette poussière lunaire qui a une odeur de poudre à canon. Et là, on savait un petit peu que la Lune était poussiéreuse avec tous les bombardements météoritiques qui ont eu lieu. Et là, lorsqu'ils vont revenir dans leur LEM, qu'ils vont quitter leur scaphandre, il va y avoir de la poussière partout. Et ça, c'était pas prévu.
Et alors, cette poussière, elle est caractéristique de la Lune, bien sûr, mais est-ce que l'on peut expliquer pourquoi on a cette poussière sur la Lune et qu'on ne la trouve pas sur Terre, par exemple ?
C'est l'histoire de la Lune. Bon, il y a eu quand même, sur notre satellite naturel, beaucoup de chambardements au cours de sa vie lunaire, hein, on va dire, des bombardements météoritiques, voilà, puisque ça a une odeur de poudre à canon, donc ça veut bien dire tout ce que ça veut dire. Voilà.
Ça le tend, donc, sur la Lune. Mauvaise météo.
Oui. Alors effectivement, quand on est à l'ombre et quand on est au soleil, les conditions de température sont extrêmes. Hein. Mais tout ça, les Américains, d'ailleurs les Russes aussi, le savaient. Donc on était préparés. Mais je vous dis, ce qui a surpris, c'est cette poussière qui a un petit peu empoussiéré le LEM. Donc après, pour les missions suivantes, les Américains ont pu être bien préparés.
Alors, un hommage à Neil Armstrong et à ses deux compagnons, mais aussi à tous les autres qui... déjà, les hommes de la Lune.
Alors, les hommes de la Lune, hein, donc ces hommes de la Lune, aujourd'hui, effectivement, puisque depuis 1969, il s'est passé beaucoup de choses. Tous ces hommes vieillissent et partent petit à petit les uns après les autres, bien sûr. Il en reste encore quelques-uns. Hein. J'ai eu la chance de rencontrer Charles Duke de la mission Apollo 17. Donc, c'est quand même émouvant de rencontrer un homme en chair et en os sur Terre et en sachant que cet homme a marché sur la Lune.
Alors, on a souvent évoqué, récemment en tout cas, dans des rencontres avec des astronautes en particulier, la réaction que peuvent avoir des gens plus âgés, de notre génération par exemple, et puis des personnes beaucoup plus jeunes. On verra effectivement tout à l'heure quel événement médiatique ça a été, mais est-ce que ils le rencontrent encore, cette émotion d'avoir marché sur la Lune, ou est-ce que finalement, dans l'opinion, on a un peu banalisé, un peu comme on parle de la conquête de l'Amérique avec Christophe Colomb, voilà.
Alors, nous, on l'a vécu, Gérard, hein, puisque nous sommes de cette génération, mais les jeunes, aujourd'hui, ils ont tellement vu de choses qu'ils ne s'étonnent plus de rien. La technologie a fait énormément de progrès dans tous les domaines qu'aujourd'hui, on ne s'étonne plus de rien.
Et pourtant, l'aventure humaine et spatiale continue.
Alors, vous parliez, Gérard, de Christophe Colomb. Alors, Christophe Colomb, on avait la Pinta, la Nina, la Santa Maria, et j'ai envie de dire, je le renvoie à l'Amérique avec le programme Mercury, Gemini et Apollo.
Michel, on aura l'occasion d'évoquer dans cette série d'émissions Orion, chemin de l'espace, plusieurs aspects, hein, notamment les lanceurs, les satellites, les hommes, les missions, etc. Quand même, cette aventure lunaire, c'est d'abord une fusée avec la puissance nécessaire. C'est Saturne 5.
C'est Saturne 5.
Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de cette fusée mythique?
Énorme fusée de plus de 100 mètres de hauteur, des énormes réserves de carburant, différents modules qui vont être lancés pour s'assembler après en orbite terrestre pour aller sur la Lune. Et je veux dire, c'est un petit peu où on parlait de la préparation tout à l'heure. J'ai une petite anecdote qui est intéressante. C'est que cette fusée qui était transportée par le crawler. Le crawler, ce sont cette espèce de pelle mécanique qui va transporter la fusée sur son pas de tir. On voit beaucoup d'autres lanceurs qui sont transportés sur des rails, hein, comme bon bah la fusée
comme Ariane par
voilà,
exemple.
Hein. Et pourquoi le crawler? Une petite anecdote là-dessus, quand les Américains préparaient un petit peu le lancement de cette fusée, ils étudiaient bien sûr les rails, les pneus, tout ça, et un soir, un jeune ingénieur donc de la NASA va déjeuner dans un restaurant avec un de ses collègues qui n'était pas à la NASA et qui lui fabriquait des pelles mécaniques. Et il lui dit, mais pourquoi vous mettez pas votre fusée sur chenille? Alors bien sûr, l'ingénieur de la NASA commence à rigoler, quoi. Et ben l'autre lui dit, non, c'est tout à fait possible, et il lui démontre que sur chenille, c'est très très stable, et on peut même mettre une fusée aussi lourde, aussi puissante, aussi haute que Saturne 5, et c'est ce qui s'est fait. Vous voyez, autour d'un bon restaurant, on peut faire avancer la technologie.
Et l'objectif était atteint. Après la Lune, à quoi on peut bien penser? Aux Martiens, à Mars, plus loin encore?
Effectivement, donc lorsqu'on a conquis la Lune, donc en 72, quand les programmes Apollo se sont arrêtés, déjà on lorgnait, veut dire sur Mars. Mais bon, à l'époque, on était quand même dans le feu de l'action, dans la lancée de la conquête de la Lune, qui avait, dire, en une dizaine d'années, avait fait des progrès considérables, et on pensait que Mars était à notre portée. On avait étudié un petit peu la vie de l'homme dans l'espace, la protection des rayons cosmiques, des rayons solaires. Mais effectivement, pour aller sur Mars, le programme est excessivement onéreux. Donc ça a pris un petit peu de temps, il fallait que l'Amérique récupère un petit peu de ses efforts financiers. Et tout ça a été, je veux pas dire mise en sommeil, mais a été un petit peu retardée. Et effectivement, un voyage sur Mars coûte très très cher aujourd'hui. Et on sait bien que dans notre monde, on manque un petit peu de moyens aujourd'hui.
On rappelle que l'aller-retour Terre-Lune dure
une dizaine de jours.
Une dizaine de jours,
oui.
Tout compris.
Tout compris, voilà.
Alors que un aller-retour sur Mars, c'est de l'ordre de 18 mois au moins, je pense.
Il faut 6 mois, hein, dans des bonnes conditions, quand la Terre et Mars sont dans des...
Dans de bonnes conditions.
Dans de bonnes conditions de lancement, c'est 6 mois. Bon, on va pas quand même y rester 24 heures, hein, ouais. comme on avait fait pour la Lune sur le premier vol. Donc si on va sur Mars, ça sera pour y rester longtemps, pour ramener des échantillons, et qu'on ait entre 12 et 18 mois, oui.
Entre 12 et 18 mois, oui. Puisqu'en fait, la Terre, pendant ce temps-là, fait son petit tour du Soleil, et il faut attendre qu'elle revienne.
Tout à fait.
Pour pouvoir la rattraper au bon moment. Donc, oui. 18 mois. Donc, entre une dizaine de jours et 18 mois, on voit effectivement l'écart technique et financier.
Pareil, hein. Voilà. Ouais. Alors, on prépare quand même Mars, puisqu'il y a 2 ans, il y a une expérience qui s'est faite à Moscou, l'expérience Mars 500, hein, où des hommes sont restés confinés pendant plus d'une année, hein, pour simuler un voyage aller et un voyage retour.
Au cas où.
Alors, il y avait d'ailleurs un Français qui s'appelle Romain Charles, qui a participé à cette expérience, qui s'en est très très bien tiré, mais bon, il y a d'autres hommes qui ont participé à cette expérience, où ça a été beaucoup plus difficile. Donc, on s'aperçoit que les conditions ne sont pas simplement techniques, mais psychologiques.
Coopération entre les États, la NASA, l'ESA, tout à l'heure on évoquait la guerre froide à propos de la Lune, entre l'Union soviétique, les États-Unis, puis aujourd'hui l'Inde, la Chine, enfin tous les pays. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette coopération aujourd'hui ?
On va dire que lorsque Armstrong a posé le pas sur la Lune, il va dire que bon, les Russes savaient déjà à cette époque-là qu'ils étaient battus, hein. Donc l'Amérique avait pris donc beaucoup d'avance et la coopération s'est mise petit à petit en place, donc avec la participation aussi, on va dire, d'un troisième larron, hein, c'est l'espace spatial européen, l'ESA, hein, qui a commencé, bon, ben avec la fusée Ariane et des missions spatiales. Des missions planétaires, etc. Donc, qui ont permis d'arriver à cette coopération internationale qu'on peut concrétiser aujourd'hui par la station spatiale, l'ISS.
Donc, en fait, pour revenir à Neil Armstrong, c'est quand même un peu le moteur, le point de départ, enfin, son aventure. Il n'est que le symbole, enfin, que le symbole. Il est le symbole.
Il est le symbole avec tous ses collègues, hein, qui ont participé à ces missions. Hein. Mais je le répète, hein, il faut bien dire Mercury, Gemini, Apollo.
On a compris. Orion, chemin de l'espace, vous parle aujourd'hui de Neil Armstrong, c'est un hommage à Neil Armstrong, et son premier pas sur la Lune. Jean-Michel, que retiendra l'histoire finalement de Neil Armstrong ?
Ben, ce qu'on retient, c'est le premier homme, hein, le premier homme qui est allé au-delà de la conquête de la Terre, puisqu'il a conquis la Lune, hein, le premier homme à poser le pied. Bon, c'est un symbole, c'est pas une icône, hein, mais enfin, vraiment, il en fallait un, ça a été lui. Ça aurait pu être un autre. C'est lui qui a été choisi. Je pense, comme on l'a dit tout au début, grâce à toutes ses capacités d'exception. Et cet homme-là marque un petit peu la conquête spatiale, notamment dans les vols habités.
Cette émission se termine. Quelques références bibliographiques peut-être pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Neil Armstrong.
Ben, je veux dire qu'il y a un livre qui est sorti l'an dernier, donc Neil Armstrong, un clin d'œil à la Lune, qui a été écrit par Marie-Christine Berdelin et Philippe Coué, donc aux éditions A2C Média. Cet ouvrage retrace assez bien la carrière de Neil Armstrong, on va dire la vie d'un pilote ordinaire, un pilote d'exception, l'entrée dans le corps des astronautes, la compétition lunaire, et bien sûr... l'homme qui a été le premier à mettre le pied sur notre satellite naturel.
Eh bien, si ce thème de Neil Armstrong et de la conquête de la Lune vous a plu, vous pouvez effectivement faire référence à ce livre. Vous pouvez aussi, Jean-Michel, consulter le site d'Orion.
Alors, sur le site Orion, www.orion43.fr, nous mettons régulièrement en ligne les événements spatiaux les plus importants, hein, puisqu'il se passe beaucoup de choses tous les jours dans l'espace. Hein. Tout ce qui tourne au-dessus de nos têtes participe beaucoup à notre quotidien.
Alors nous aurons l'occasion d'ailleurs sur cette antenne de vous communiquer régulièrement l'actualité du ciel de Haute-Loire et de l'espace également avec vous Jean-Michel.
Pas de problème. Et donc n'hésitez pas à consulter notre site. Et bien sûr nous avons aussi des liens vers d'autres sites astronomie et spatiaux.
Eh bien merci à tous et à bientôt.